lire et faire lire les grands textes, comment emmener et amener les enfants aux livres et les livres aux enfants. Belle question pour cette émission en direct et en public du Salon du Livre de Paris. Lire, c'est aussi une question de mise en condition du lecteur, mais peut-être aussi du texte. C'est ce que nous allons voir avec les auteurs que nous avons invités. Muriel Tsak, qui a adapté entre autres Homère en feuilleton, et Stéphane Huette, qui s'est attaqué en bande dessinée à Marcel Proust et à sa recherche. Bonsoir à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture. Dernière émission raccourcie pour cause de conférences de carême, conférences qui ont été diffusées au Salon du Livre. Oui, les gens qui attendaient pour nous écouter les ont également entendus. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h55. On commencera par l'actualité de l'éducation avec Libby Cousteau de l'Express. Et de retour cette semaine dans l'émission au programme, chère Libby.
Des manifs, des menaces sur l'édition scolaire et des professeurs d'arabe. Déstabilisé.
Ça, on en parlera en fin d'émission. Et puis, vous évoquerez une révolution britannique très étonnante. Rue des Écoles, c'est Alexandra Malka à la réalisation. À la technique, aujourd'hui, Élise Le et Stéphane Beaufis. Attaché de production, Laurence Genepin.
France Culture.
Rue des Écoles.
Louise Touré.
Où lisez-vous, chers lecteurs, amis lecteurs, dans votre lit, dans les transports, dans votre bain? Lire, c'est une question de moment, d'endroit, de disposition, je le disais, celle du lecteur et celle du texte. Je me suis intéressée donc à deux ouvrages et deux collections d'ouvrages, puisqu'on peut parler de ça maintenant avec mes invités. J'ai pas envie de parler trop longtemps, puisque nous sommes là en public, je vais vous faire parler tout de suite. Muriel Tsak, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez adapté en feuilleton la mythologie grecque et le dernier ouvrage qui est sorti, c'est l'année dernière, c'est l'Iliade, c'est Homère à qui vous vous êtes attaqué, c'est le feuilleton d'Ulysse. Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots sur l'immense succès de ces adaptations ?
En fait, le premier, c'était le feuilleton d'Hermès. Le feuilleton d'Hermès, c'était une manière de présenter déjà les dieux en prenant le personnage d'Hermès comme complice et comme compagnon. Comme vous dites, l'immense succès, c'est une belle découverte, enfin c'est une belle surprise, puisque effectivement ça fait des années.
Oui,
des
maintenant
années
ça fait 10 ans. Hein.
Voilà, tout à fait. Les lecteurs de tous âges. J'en vois un qui arrive.
Ah oui. Bonjour. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Gaspard.
Et alors, lequel de ces livres as-tu lu?
Le feuilleton d'Hermès.
Est-ce que ça t'a plu et pourquoi ça t'a plu?
Bah, ça m'a plu parce que ça raconte des mythes et j'aime bien ces mythes.
Et ça t'a fait comprendre des choses sur la vie? Est-ce que ça t'a intéressé aussi à l'Antiquité?
Oui.
Tu restes avec nous un petit peu, Gaspard. Oui. Je vais te présenter mes autres invités. Alors, je ne sais pas si tu as entendu déjà parler de La recherche du temps perdu. C'est un très grand livre. Normalement, ça ne s'adresse pas trop aux enfants, mais on peut en parler à l'école. En tout cas, on a pu en parler grâce à une bande dessinée, et c'est la vôtre, Stéphane Huette. Vous avez déjà eu une idée un petit peu bizarre d'adapter Proust en BD. Là aussi, c'est une collection, il y a plusieurs tomes. Quand avez-vous commencé? C'était il y a à peu près
15 ans.
D'années.
J'en ai encore pour au moins 25, il faut que je tienne le coup.
Et ces ouvrages, on les retrouve aussi dans les CDI et des professeurs les utilisent?
Oui. Même à la maternelle, en fac. Enfin, je suis ébahi par ce succès dans les écoles, enfin, auprès des enseignants. Les enseignants sont assez bienveillants avec moi.
J'ai une question pour vous deux. Qui sont les auteurs de ces ouvrages? C'est vous? C'est Marcel Proust ou c'est les deux?
Enfin, ce qui me concerne, c'est clairement Marcel Proust. Je mets pas de, il n'y a pas de mot de Stéphane Huette. Il n'est pas là.
Mais il y a vos dessins?
Il y a mes dessins. Hein, mais mes dessins, en fait, ce sont ces images. Ce sont les images que je décalque, en fait, c'est son texte en images.
On va y revenir au choix des dessins, comment vous avez dessiné les personnages et retrouver leur visage pour certains. Vous avez dû aussi faire un choix dans le texte, c'est une forme d'anthologie à l'intérieur de la recherche.
C'est que je dois forcément faire un travail de Jivaro. Je réduis le texte de Proust. J'essaie d'en garder l'essence, mais c'est évidemment beaucoup mieux sans les images et avec plus de texte. Ce que je fais, c'est une façon de l'aborder, puis surtout une façon de montrer un monde qui a disparu et de peut-être mieux comprendre certaines choses aussi, des recettes de cuisine, des monuments, des lieux, des personnes, des situations compliquées. Enfin, ça peut apporter quelque chose, je pense, même aux lecteurs de Proust.
À ceux qui lisent livre en lui-même. On essaiera de faire le rapport entre les lecteurs de la bande dessinée, les lecteurs du livre, et pareil avec vous, Muriel Zach, mais je vais vous poser la même question. Qui est l'auteur ?
Alors là, c'est vraiment moi.
D'abord
parce que les deux premiers ne s'appuient pas tellement sur Homère, et puis parce qu'en fait, la mythologie grecque, chaque personne depuis toujours qui a écrit à partir de la mythologie a fait sa propre mythologie. Donc là, Ulysse, c'est mon Ulysse, cet exilé qui ne voulait pas partir à la guerre et qui rentre chez lui en essayant vraiment de rejoindre les siens. Et chaque moment, là, je pense que ce sont les miens. On se les attribue, comme les lecteurs se les attribuent d'ailleurs.
Le Salon du Livre aime dire qu'il est la plus grande librairie de France. Alors moi, dans une librairie, j'avais envie de parler d'une bibliothèque, des bibliothèques qui sont aussi des écoles de la lecture. Il y a les bibliothèques scolaires, il y a les bibliothèques municipales. Héloïse Courty, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la médiathèque du Kremlin-Bicêtre. Dans toute médiathèque, il y a une bibliothèque. Un mot sur le succès de ces ouvrages que vous connaissez bien. Vous les lisez aussi. Vous lisez la mythologie adaptée par Muriel Zach au public qui vient dans votre bibliothèque.
Alors on la lit, oui, bien sûr. On la prête énormément. On l'achète en multiples exemplaires, comme on dit. Et aussi, on travaille avec les instituts, les centres de loisirs, qui mettent la mythologie à l'honneur et qui recherchent d'autres versions aussi de la mythologie, d'autres formats. Et oui, effectivement, c'est une star des médiathèques.
Muriel Zach, est-ce qu'il y a une question de format, vous, en tant que bibliothécaire spécialiste, et puis aussi en tant que personne, votre travail, c'est de faire accéder aux livres et aux textes à un plus grand nombre de gens, de démocratiser la lecture. Est-ce que cette question de l'adaptation et d'adaptation renouvelée et plus actuelle vous paraît pertinente pour accéder à un plus grand nombre de lecteurs?
En fait, je trouve ça extrêmement joyeux. Pour vous dire la vérité, on parlait de Proust tout à l'heure. Donc en fait, à la médiathèque du Kremlin-Bicêtre, mais dans de multiples médiathèques, j'imagine, on a effectivement Proust en original, en plusieurs exemplaires, et en livre de poche et peut-être en grand format aussi. On l'a en BD, on l'a en album. Là, j'ai un album illustré par Betty Bonne aux éditions Courtes et Longues, qui sont les reprises des réminiscences de Proust. On l'a en livre audio. On peut avoir aussi des classiques adaptés sur des applications, sur des tablettes ou en jeux vidéo. Donc, par de multiples canaux, en fait, on fait écho aux classiques et on amène les enfants à lire les classiques. Et même là, j'ai pris Blaise et le château d'anniversaire.
Alors ça, c'est Claude Ponty, une star de la littérature enfantine.
Voilà, et qui, dans son introduction, dit « Longtemps, je me suis couchée de bonne heure avec mes livres et ma lampe de poche. » Et il fait un hommage à tous les auteurs qui ont nourri son imaginaire d'enfant et de tous les enfants qu'il nourrit lui-même à travers ses récits. Donc tout ça pour dire que, oui, les classiques, c'est vraiment quelque chose qui est emboîté et qui vit de multiples façons à l'intérieur de la médiathèque, à travers des multiples livres.
On vous retrouve dans un instant. Pas de rue des écoles sans actualité de l'éducation. Et vous allez l'entendre, les actualités de cette semaine sont étonnantes, pour ne pas dire détonnantes.
Lycéens, salariés, tous ensemble.
Enfin, en fait, ma génération qui allait être touchée par cette loi. Donc c'est plutôt évident parce qu'on n'a pas envie de retourner 60 ans en arrière.
On est encore plus sujet à la précarité que les autres et ça se ressent beaucoup. Et on voit très bien qu'en fait c'est notre avenir qui est en train d'être détruit alors qu'il est déjà pas très glorieux en fait.
Je penserais presque en fait le test qui est maintenant, c'est le test que voulait faire adopter Hollande, mais qu'il a rajouté des mesures encore plus violentes pour faire comme s'il reculait. Si on va adopter un chat, on demande à ses parents un tigre. Parce que comme ça, il dira non, t'auras un chat. Faire dire aux gens, ah regardez, il a retiré, il recule, on peut l'accepter comme ça en fait.
Du chat et du tigre et surtout de la mobilisation étudiante et lycéenne, Libby.
Absolument, les jeunes, 150 000 étudiants et lycéens selon l'UNEF, 69 000 selon la préfecture, sont à nouveau descendus dans la rue cette semaine pour protester contre le projet de loi El Khomri, pourtant remanié. Et cela, même s'ils ne sont pas vraiment directement visés par les différentes mesures, comme le plafonnement des indemnités prud'homales ou l'assouplissement des licenciements.
C'est vrai que le plafonnement des indemnités prud'homales, ce n'est pas ce qui vient en premier quand on parle aux étudiants, mais tout de même, il y a une inquiétude et la grogne monte d'un cran.
Elle monte d'un petit cran en effet, 115 lycées bloqués contre 95 le 9 mars, s'y mêlent comme toujours d'autres sujets, la levée de l'état d'urgence, le refus de la déchéance de nationalité ou la défense des sans-papiers. On est plutôt dans la catégorie rite initiatique que dans le soulèvement contre le CPE, avec quelques slogans bien trouvés, arrêtez vos conneries, comme d'habitude.
Bon, les jeunes prévoient de redescendre dans la rue donc la semaine prochaine. Nous en reparlerons, mais on va passer à des inquiétudes qui concernent plutôt les éditeurs ici présents au salon du livre. Je parle des éditeurs scolaires.
En effet, lors du salon de l'éducation la semaine dernière, ici aussi, Amazon et Canopé, l'opérateur public du ministère de l'Éducation nationale, ont annoncé le lancement d'une collaboration dans le domaine de l'auto-édition pour et par les enseignants. Des formations gratuites vont être organisées à Orléans, Rodez, Lyon, Rouen, Lille, Pointe-à-Pitre dès le mois de mars. Objectif, aider les enseignants à écrire des e-books, des cours et du matériel pédagogique.
Mais là aussi, il y a un marché, hein.
Absolument. Et de quoi faire peur aux éditeurs scolaires qui pointent notamment l'alliance d'un acteur public avec un grand méchant américain peu soucieux, il est vrai, des droits d'auteur. En même temps, le fait que l'éducation nationale via Canopé plonge dans les contenus numériques est plutôt rassurant. Il est plus que temps, même s'il est vrai que l'éducation est, comme vous le dites, un marché, un business. D'ailleurs, en février, le même Amazon a annoncé aux États-Unis le lancement d'une plateforme open source dédiée à l'éducation.
Affaire à suivre, le numérique bouleverse le monde de l'éducation. Ce n'est qu'un début, alors ce n'est pas seulement dans le secteur commercial.
Absolument, l'association Bibliothèques sans frontières, BSF, lance sa chaîne YouTube BSF Éducation. Alors cette chaîne, elle s'adressera aussi bien aux enseignants qu'aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants. Elle proposera des contenus originaux, comme des contenus existants déjà sur le web, pratiques donc. On y trouvera aussi des vidéos pour réviser réussir son bac, ou tout comprendre sur un sujet. Les premières vidéos qui seront mises en ligne concerneront la laïcité et la liberté d'expression.
Des sujets d'actualité. Et pendant ce temps, outre-Manche, une révolution se prépare. Écoutez bien, c'est quand même une information de taille que vous nous livrez, la Libye.
Tout à fait. Voilà qui fera d'ailleurs peut-être rêver quelques chefs d'établissement peut-être en France et cauchemarder un certain nombre de profs et de syndicalistes. David Cameron s'apprête à mettre en œuvre sa vision libérale de l'école.
On s'explique. Plus d'écoles publiques en Grande-Bretagne, toutes les écoles deviendront des académies gérées par des gestionnaires privés.
Oui, l'idée étant aussi de mettre les écoles sous la seule autorité des directeurs et des enseignants pour les libérer des bureaucrates, dit Cameron. La réforme n'est pas encore actée, mais elle suscite déjà un immense débat de l'autre côté du Channel à suivre donc.
Débat intense, on imagine ce que ça donnerait en France où, alors que l'Église est accusée de déni, la lutte contre la pédophilie à l'école continue.
Absolument. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre, a annoncé sur RTL la radiation de 27 enseignants en 2015, un peu plus qu'en 2014. Un professeur ou un agent de l'administration au contact d'enfants, dit-elle, dès lors qu'il a été condamné pour des faits aussi graves que la pédophilie ou la pédopornographie, ne peut plus exercer au contact des enfants. C'est ça, c'est certain. Il faut que nous résolvions tous les dysfonctionnements qui ont eu lieu, a-t-elle déclaré, faisant allusion à l'affaire de Villefontaine. Mais alors que la loi qui obligerait la justice à informer le ministère de l'Éducation nationale des affaires en cours est bloquée, ayant été retoquée par le Conseil constitutionnel, Najat Vallaud-Belkacem a annoncé que le ministère allait passer au peigne fin tous les casiers judiciaires des enseignants. Reste à savoir ce qu'ils en feront après.
On vous retrouve en fin d'émission, Libby, mais vous restez avec nous. Si vous avez des questions, posez-les et écoutez bien ce qui va suivre.
France Culture.
Rue des Écoles,
Louise Touré.
Alors, Ulysse, qui c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme ? C'est un de ces personnages qui, du fond des temps, est venu jusqu'aujourd'hui parce qu'il est ce qu'on peut appeler un héros de la Grèce ancienne, un des personnages clés. Imaginez-vous que plus tard, 3 ou 4 siècles après, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, tous les petits-enfants qui allaient à l'école apprenaient par cœur les histoires d'Ulysse. Ça faisait partie des évidences. Ils connaissaient Ulysse comme si ça avait été leur copain. Et Ulysse, c'est une autre paire de manches. Il a ça aussi, c'est aussi un bon guerrier, hein, avec le casque, le plumet, la cuirasse, le bouclier, le javelot et le glaive. Mais il est surtout, Ulysse, un malin. C'est un type incroyablement rusé. Il possède une qualité qui s'appelle en grec la métis, l'astuce. Cette astuce, ça lui permet de sortir d'affaires dans les situations où on peut penser qu'il est foutu.
Quel plaisir de faire résonner la voix de Jean-Pierre Vernant ici au Salon du Livre à Paris. L'helléniste Jean-Pierre Vernant qui lisait l'Iliade pour et l'Odyssée pour un jeune public. C'était dans le théâtre de Montreuil en 2001. Ça a été diffusé sur France Culture en 2002 et dans les nuits de France Culture en février 2016. Vous pouvez retrouver ce récit complet sur le site de France Culture. Vous pouvez le podcaster, le diffuser à vos enfants, vos élèves, les jeunes que vous connaissez et l'écouter pour vous, pourquoi pas. Si j'ai passé cet extrait, c'était pour parler de l'oralité et de l'importance de lire pour faire lire. Et je me tourne vers vous, Muriel Zach, parce que ce livre, ces livres, ce sont des récits que l'on peut lire pour soi, mais que l'on doit lire, qu'on peut lire aux autres. C'est comme cela que cela a été pensé.
Oui, absolument. C'est quel plaisir. Merci de nous faire entendre Jean-Pierre Vernant encore une fois. C'est tellement merveilleux, formidable. Je les ai vraiment écrits pour retrouver cette oralité, pour qu'on puisse les partager. Parce que je crois qu'il y a une chose très importante avec la mythologie, c'est qu'elle transcende les âges. Et que donc, c'est vraiment bien qu'on puisse les lire à haute voix ensemble. Ensemble en famille, ensemble quel que soit l'âge des enfants dans la famille, et puis aussi quel que soit dans une classe, puisque c'est aussi beaucoup lu en classe, quel que soit l'âge des enfants. Donc c'est vrai que j'ai vraiment été très vigilante à ce que ça soit des textes qui plaisent à toutes les oreilles et qui soient faits pour être mis en bouche.
Bon, on vous croit pas sur parole, mais on sait par le succès et aussi parce que vous recevez beaucoup de courriers, vous m'en avez montré, ça fonctionne. Gaspard, notre invité surprise, alors toi, tu les lis tout seul, les livres de Muriel Zach, ou on te les lit, c'est ton papa ou ta maman ou des adultes qui te les lisent?
Bah, moi, je les lis plutôt dans la classe, collectif.
Avec ta maîtresse?
Oui.
Et elle vous les lit et après vous travaillez dessus?
Oui, on fait des petits débats.
Et ça t'a plu d'entendre Jean-Pierre Vernant?
Je ne le connaissais pas.
Oui, tu m'as demandé qui il était. Héloïse Courty, en bibliothèque, on organise aussi des lectures collectives le samedi après-midi, le mercredi, avec les centres de loisirs. Comment vous la décririez, vous, cette relation entre lecteur, spectateur, auditeur, c'est pourtant un mot qu'on connaît bien à la radio, et lecteur, ensuite silencieux, solitaire. Est-ce que c'est vraiment un lien qui marche? Vous l'éprouvez comment avec les jeunes?
Alors, c'est un lien de plaisir, bien sûr, puisque les médiathèques sont le lieu de la lecture plaisir, hein, par rapport au classique, en tout cas, par rapport à l'école. Et donc, oui, on lit beaucoup à haute voix, on lit beaucoup à haute voix en individuel, mais aussi en collectif. Et il y a un peu la jouissance de l'oralité, la jouissance des mots. Et dès tout petit, en fait, à partir de 6 mois, les enfants peuvent participer à des espèces d'heures du conte et on chante tous ensemble, on dit des comptines, on dit des histoires qui n'ont pas de sens, des fois juste pour le plaisir des mots, ou alors des histoires qui commencent déjà à être construites pour commencer déjà à maîtriser la syntaxe et à maîtriser donc le récit et une chronologie.
Vous recevez des classes aussi ?
On reçoit des classes, des crèches, des assistantes maternelles, des centres de loisirs.
Alors on peut s'étonner du fait que ça commence dès 6 mois avec la crèche. Jusqu'à quel âge vous recevez des lecteurs, auditeurs?
On peut recevoir des lycéens aussi, avec qui on fait des activités autour de la lecture, mais aussi quand on organise des événements littéraires pour les adultes, on demande tout le temps que l'auteur lise ou que les bibliothécaires lisent des extraits pour faire entendre le texte au public.
Faire entendre le texte, ça marche à tous les âges, ça marche aussi au collège. Nous avions reçu dans Rue des Écoles Serge Boimard, un psychologue qui va lire les grands mythes à des élèves en classe, au collège. Ça aussi, Muriel Sack, vous le faites?
Ah oui, bien sûr, mais Serge Boimard, il a surtout initié, je pourrais presque parier que l'institutrice de Gaspard a croisé ce travail. Il a initié dans beaucoup d'écoles et de collèges en France une lecture quotidienne pour les écoles primaires. Il y a certains collèges, dans le 93, j'en ai encore rencontré un, et à Paris, où c'est tous les jours qu'on va lire un épisode. Et surtout, il insiste, et moi, je suis absolument derrière ça, sur le fait que même quand les enfants savent lire, il faut continuer à leur lire à voix haute. Et donc lire ces grands textes à voix haute dans les classes, c'est quelque chose qui ensuite provoque le débat, comme notre jeune invité surprise nous l'a dit, et qui permet vraiment d'échanger à partir du texte. C'est fondamental.
Alors ce qui m'a beaucoup intéressée dans ces feuilletons, puisque c'est comme ça que c'est présenté, c'est même le titre, le feuilleton d'Hermès, le feuilleton de Thésée, le feuilleton d'Ulysse, c'est la manière dont vous avez découpé l'histoire. Ça, c'est une manière assez contemporaine. Alors, je ne sais pas si vous regardez des séries. Dans le vocabulaire des séries, ça s'appelle un cliffhanger. Ça veut dire que à chaque fin d'épisode, y a un petit suspense qui fait qu'on a envie de tourner la page. Comment avez-vous eu cette idée, Muriel Sack?
Quand j'étais petite, il y a fort longtemps, je regardais des... Il y avait déjà des feuilletons à la télé, même quand la télé était en noir et blanc. Donc aujourd'hui, je ne suis pas une consommatrice de séries. En revanche, j'ai toujours eu du goût pour les feuilletons qui étaient publiés dans la presse par des grands écrivains, Zola, Hugo, Gensu. Et j'aime cette idée du suspense, de s'arrêter au moment le plus palpitant, et puis comme ça, de me laisser moi le temps d'imaginer la suite. Moi, lectrice, ou comme moi, spectatrice... Et donc de me projeter dans la suite.
Gaspard, c'est ça qui te donne envie de tourner les pages, le petit suspense à la fin de chaque épisode?
Oui, parce que moi, ça s'arrête toujours à un moment où t'as vraiment envie de continuer. Donc tu veux que ça s'arrête à un moment où t'aimes pas du tout. C'est mieux comme ça, parce que comme ça t'as tout le moment qui est bien et après t'as le moment que t'aimes pas trop, donc tu peux arrêter là.
Ah oui, donc toi, t'arrêtes au milieu des épisodes, c'est un bon truc. Cette question de mettre les textes comme ça dans une autre, dans un ordre un peu différent. Enfin, c'est pas l'ordre qui est différent, c'est les coupures. C'est compliqué au départ de s'attaquer à Homère ou à la mythologie et de se dire, moi, je vais le raconter autrement. Oui, ça paraît même un peu présomptueux. Excusez-moi, Muriel Sack.
Non, mais vous avez raison. Tout à fait. D'ailleurs, au début, j'ai commencé par Hermès et Thésée. Après, j'ai dit, je vais pas le faire Ulysse quand même. Il y a Homère qui l'a fait. Mais, je ne pars pas des textes au départ, mais je pars des héros. Et c'est ça ma solution. C'est-à-dire que je pars de mon personnage, je pars de Thésée qui rentre dans le labyrinthe et qui est obligé de chercher son chemin, pour revenir sur ses pas parce que c'est quand même, je pars d'eux. Et donc, Ulysse, une fois que je l'ai attrapé comme un personnage à moi, alors à ce moment-là, je n'ai plus l'impression d'être en train... Même votre expression d'adaptation, je ne sais pas si c'est ça en fait. J'ai relié ensemble des personnages et des histoires qui ne sont d'ailleurs pas forcément reliées ensemble. Parce que dans Hermès, je relie des dieux et des histoires qui d'habitude sont racontées séparément. Donc, mais c'est vrai que je me suis dit, prendre Ulysse, mais quelle folie. Et puis... Au moment où j'ai trouvé mon Ulysse pour moi, c'est quelqu'un qui ne voulait pas partir à la guerre, c'est quelqu'un qui ne voulait pas quitter les siens, qui part malgré lui, et c'est un exilé. Et
c'est un peu un père d'aujourd'hui, hein. Il est attaché à sa famille.
Et là, d'un seul coup, ça y est. Et puis, c'est pas du tout heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. C'est pas du tout ça. C'est au contraire quelqu'un qui passe tout son temps à essayer de raccourcir la durée de la guerre. Sa ruse, la métisse dont parle Jean-Pierre Vernon, elle n'est mise en œuvre que pour que ça s'arrête plus vite et qu'il rentre plus vite retrouver Pénélope et Télémaque. Et donc ça, une fois que je l'ai eu, mon Ulysse, alors après, je dévile le fil. Et je n'ai pas gardé l'ordre, comme vous dites. Hein. Ouais. Non, ça n'est pas dans l'ordre.
Mais vous avez l'impression de proposer une lecture contemporaine et de revisiter les mythes, légendes, mythologie grecque à la sauce, entre guillemets, d'aujourd'hui.
Alors, c'est très contemporain parce que il n'y a rien de contemporain au sens où on les met pas en jean avec des téléphones portables, évidemment. Mais les questions que pose la mythologie, ce que ça nous renvoie, ce sont tellement des questions d'aujourd'hui. Tous les héros cherchent leur père. Ils ont des problèmes de fratrie. La question de la vie, de la mort, de l'amour, c'est tellement d'aujourd'hui. La question de la guerre, de la violence. Pourquoi la mort? Vous savez, je sais pas. Quand je suis allée dans des classes, par exemple, très peu de temps après les événements de décembre, et j'ai vu des dessins qui illustraient la guerre de Troie à la suite de la lecture du feuilleton d'Ulysse, et ça nous parlait mais de maintenant, tout de suite là. Et puis quand vous voyez cet exilé sur son radeau qui est en pleine Méditerranée et qui s'appelle Ulysse, mais qui pourrait s'appeler dans le nom d'aujourd'hui, voilà. Je crois que le contemporain, il est avec la mythologie à l'intérieur.
Mais un grand texte est peut-être toujours contemporain. Alors, je me suis intéressée aux autres versions contemporaines de grands textes et je me suis tournée vers la bande dessinée. Parce que là, on va parler de La recherche du temps perdu, mais il y a de nombreux textes qui sont adaptés en bande dessinée. Enfin, on connaît même des adaptations de la Bible en BD. Là, ce que vous avez cherché à faire, Stéphane Huette, c'est un projet bien particulier, un projet qui se veut très fidèle au texte de Proust. Mais est-ce que lire votre bande dessinée, c'est lire la recherche ?
Non, c'est lire l'adaptation de la recherche en bande dessinée avec effectivement un choix de texte, enfin un découpage. Mon travail, surtout là, un découpage pour révéler la structure de la recherche. Donc je réduis forcément, je sacrifie des phrases qui sont parfois magnifiques au profit parfois d'ailleurs de phrases utiles, c'est ce qu'on appelle les phrases outils. Il monte à l'escalier, faire en sorte qu'un lecteur de la recherche et un lecteur de la bande dessinée puissent en parler, on a eu l'impression de lire la même, de rencontrer les mêmes idées. Parce que La recherche du temps perdu, c'est un livre de philosophie. Ben, pour moi, c'est un livre de philosophie. Et sans transcendance, hein, c'est quelque chose qui permet d'aborder la mort des siens, la mort, sa propre mort, d'aborder le manque de religion, ces choses-là. Si quelqu'un le lit dans la bande dessinée, je pense qu'il rencontrera les mêmes idées. Je pense aussi, et je vérifie d'ailleurs tout le temps, que beaucoup de lecteurs de la recherche, dans sa version naturelle, originelle, ne comprennent pas certaines choses, tout simplement parce qu'elles ont disparu, parce que le monde de Proust a disparu. Donc voilà, ça aide à...
Et c'est ce monde, alors je m'arrête sur cette expression, c'est ce monde aussi que vous montrez avec vos dessins. Oui. Alors pour expliquer, à quelqu'un qui n'aurait pas vu la bande dessinée, c'est un dessin assez classique en termes de bande dessinée. Totalement c'est classique. La ligne claire.
C'est Black et Mortimer, hein, c'est Tintin. C'est Tintin avec des décors plus fouillés, mais c'est Tintin. Les personnages sont presque abstraits.
Et pourquoi vous avez choisi ce style-là?
C'est très volontaire, c'est pas un dessin facile à faire, c'est très fatigant de faire ce genre de choses. Il est plus facile de faire un dessin impressionniste.
J'ai pas dit que c'était facile, mais...
Non, mais ce que je veux dire, c'est un choix.
C'est classique, en tout cas.
C'est un choix. Je veux vraiment que les lecteurs puissent s'identifier au personnage du narrateur. Et pour ça, vous savez que plus un personnage ressemble à quelqu'un de réel, moins vous pouvez vous identifier. Blueberry, c'est Belmondo. Et donc, si vous avez un des personnages qui ressemble à quelqu'un, plus il ressemblera à quelqu'un, moins vous pourrez vous identifier. C'est pour ça que Little Nemo a été le succès que ça a été. C'est parce qu'il n'y avait que deux billes de loto, même pas de bouche. Donc, mes personnages sont assez abstraits, alors que les décors sont réels. Vous savez, c'est un petit peu... je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film qui s'appelait « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?» C'était un film où il y avait un personnage de dessin animé, donc le lièvre, le lapin, et un décor réel. C'est un peu ça. Je montre ce que Proust décrit, mais le narrateur lui-même, qui n'est pas Proust, enfin, le narrateur, et ses contemporains, les personnages qu'il rencontre, sont beaucoup plus dessinés dans le style ligne claire, BD belge, Black et Mortimer. C'est aussi, et c'est quand même volontaire, c'est aussi une bande dessinée qui a un style qui passe partout. c'est traduit en 29 langues. Hein. Donc, vous savez, un dessin de Crumb, ça passe pas très bien en Chine. Moi, c'est lui au Brésil, c'est lui en Indonésie. C'est pas
mais
édité.
Vous aviez ce projet, au départ, d'amener Proust partout, dans tous les pays, de l'amener dans les écoles, de l'amener aux enfants qui ne peuvent pas lire l'œuvre normale, classique.
C'est un accident, ça.
Oui.
Si vous voulez, à l'origine, moi, je faisais ça pour les Proustiens, pour leur montrer, vous voyez, la maison de Tante Léonie, c'était ça, la maison d'Elisabeth Amiot, etc.
Oui, parce qu'il y a une documentation iconographique, voilà. Vous reproduisez, enfin, vous trouvez pour Balbec des traces, des photos, vous êtes oui. fidèle à une géographie proustienne, oui. un peu réinventée, aménagée, enfin, vous trouvez les
Proust,
endroits.
Proust lui-même a réinventé sa voilà. géographie. Mais oui, je mets 2 ans avant d'attaquer un album hein, pour rechercher. Mais enfin, heureusement, c'est un monde très photographié et très peint. Il y a les peintres impressionnistes pour les couleurs et puis il y a Marville et Nadar pour les décors. Donc c'est assez facile en matière de documentation. Mais c'est un accident que ça ait marché avec le grand public. C'était pas mon intention.
Et avec les Proustiens.
Les Proustiens m'ont aidé dès le début. Vous savez, ce sont certainement les moins réac de ceux que j'ai rencontrés dans ce monde-là.
Le biographe de Proust, enfin le plus connu, Jean-Yves Tadier, je l'ai lu, a adoubé votre travail, en tout cas la bande dessinée.
Luc Fraisse aussi, oui. Luc Fraisse, quand même, une sommité s'en sert, même dans sa fac. Avant d'aborder Proust avec ses universitaires, il leur fait lire la bande dessinée. Moi, vous imaginez comme je suis heureux, flatté, comblé.
Et donc c'est un accident, mais vous vous retrouvez aussi dans les écoles.
Oui, mais là, j'ai pas envie de faire... Vous savez, plus on lit Proust tard, mieux c'est. C'est terrible ce que je dis, mais quand on lit Proust, on se rencontre soi-même. Moi, quand j'ai essayé de lire Proust à 20 ans, j'étais dans la marine, ça m'est tombé des mains. J'ai arrêté, et au bout de 15 pages. J'ai recommencé à lire Proust à 35 ans, mais j'avais vécu, j'avais souffert, j'avais perdu du monde. Et donc, ça a été autre chose, ça a été une rencontre. Si vous lisez ça trop tôt, la recherche, vous allez rencontrer personne. À 20 ans, vous n'êtes pas quelqu'un. Moi, à l'époque, à 20 ans, ce qui comptait, c'était les boîtes de nuit, etc. Donc, les enfants, je ne pense pas que ce serait bon qu'ils lisent Proust. Mais ce qui est très important, c'est les désinhiber. Parce que tous ceux qui ont lu Proust sont des gens remarquables, mais une petite partie de gens un peu snobs, un peu élitistes, se rengorgent et disent « Moi, j'ai lu Proust dans la douleur. » Et toi, tu ne pourras pas lire Proust parce que c'est difficile, c'est pas de ton niveau. Quand on lit la recherche d'heures perdues en bande dessinée, on s'aperçoit que c'est absolument pas difficile. Les longues phrases, faut pas rigoler. Longtemps, je me suis couché de bonheur, c'est pas une longue phrase. Il y en a quelques-unes des longues phrases, mais c'est pas ça qui fait l'essence de la recherche. Et donc, j'espère qu'en lisant ces bandes dessinées, les lecteurs, dans 20 ans, lorsqu'ils se retrouveront face à la Pléiade ou à la collection blanche, vont pas avoir peur, vont pas se dire, Proust, c'est pas pour moi, j'ai pas le niveau. C'est juste désinhiber les gens.
Et l'idée aussi, est-ce de, j'imagine, pour les enseignants qui vous reprennent, c'est de cultiver la jeunesse, c'est-à-dire que on sortirait de l'école, même si, et cette idée peut être aussi choquante, hein, mais je sais combien il est difficile de faire lire les adolescents. C'est de connaître, d'avoir une idée des œuvres et du patrimoine littéraire, quand bien même on l'a pas lu dans le texte.
Oui, c'est toujours mieux. De toute façon, ça sera toujours mieux. Même si vous lisez comment dessiner, ça sera toujours mieux que de croire. Dans les écoles, vous savez, au début, il y a 10-15 ans, quand j'arrivais dans les écoles, les élèves, Proust, pour eux, c'était un cours automobile. Il y avait quand même du boulot. Donc, de toute façon, le peu qu'ils liront de Proust, ça sera toujours gagné. Moi, je suis très triste. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Ma mère et mon père, je sais, n'ont pas lu Proust. Et je suis très triste de ça pour eux. Parce que ça rend meilleur, ça rend plus heureux. Moi, je pense que si les gens savaient à quel point ça rend heureux de lire Proust et que ça permet de comprendre et d'accepter beaucoup de douleurs, tout le monde lirait Proust. Donc c'est un service à leur rendre de les préparer à l'entrée en Proust, à accueillir Proust.
Lire de grands textes rend plus heureux, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait dire aussi à l'école et dans les cours de français. Et pas seulement. Muriel Zach, vous êtes aussi déléguée, j'ai vu, auprès du monde scolaire, dans votre maison d'édition, Bayard. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Rédactrice à chef de Bayard Éducation, oui. Ben, ça veut dire prendre les contenus qui sont, dans un premier temps, pas publiés dans la presse magazine, comme ImageDoc, Youpi, J'aime lire, et puis avec des enseignants qui sont des auteurs pédagogiques, proposer aux enseignants des ressources, notamment numériques, d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure, pour faire une classe un peu pour donner envie, pour donner du désir. Voilà, ce sont des contenus pédagogiques, mais qui sont passés par le prisme du savoir-faire de la presse Bayard Jeunesse.
Donc, c'est un petit peu le même travail. Il faut un savoir-faire pour amener les livres aux enfants et les enfants aux livres, aux grands livres. Je me suis interrogée sur la littérature jeunesse. Donc, c'est pas exactement celle dont on parle, mais Héloïse Courty, qui est bibliothécaire, s'y connaît mieux que moi, la littérature jeunesse d'aujourd'hui. Il y a eu le phénomène Harry Potter. Aujourd'hui, il y a toute la littérature d'anticipation, style Divergente ou Hunger Games, qui ont été des succès énormes et qui ont été adaptés au cinéma. Ce sera pas un peu important de revenir au patrimoine littéraire français un peu, et puis au patrimoine littéraire un peu plus en relation avec la grande culture, la culture cultivée, pour utiliser l'expression des sociologues. Héloïse Courty.
C'est-à-dire qu'on essaie de faire dialoguer les deux. En l'occurrence, pour les adolescents, bon, c'est un défi un peu plus sportif. Mais chez les petits, par exemple, nous, on fait très attention à ce que dans nos collections, il y a à la fois les classiques de la littérature jeunesse et des nouveautés, et de faire en sorte que ces classiques soient toujours disponibles pour qu'on puisse revenir aux grands textes facilement. Donc oui, c'est un travail, et c'est l'idée de faire en sorte que tous ces ouvrages qui nous semblent particulièrement riches, particulièrement denses, et qui vont nous permettre de devenir un lecteur plus tard, soient présents, disponibles, et soient utilisés, et soient quelque part fassent partie du décor quotidien des lecteurs.
Il faut les banaliser. Qu'est-ce que vous dites à un adolescent, un préadolescent, pour lui faire lire de la littérature, par exemple, du 19e siècle? Alors, pas forcément Proust, mais si on veut l'emmener vers Balzac, vers Zola, des choses qui sont tout à fait lisibles au collège.
Alors, en général, il y vient parce que l'école l'y a emmené. Donc, il vient dans la médiathèque, en général, un peu maladroitement, en demandant le docteur malgré lui. Donc, il y a déjà pour ce premier contact avec quelqu'un de tiers, où on l'amène justement voir tous les ouvrages qu'on a de Molière. Et puis, il trouve celui qui va lui convenir le plus. Donc, y a un jeu qui s'instaure avec le lecteur. Après, nous, on conseille aussi beaucoup d'autres genres d'activités autour de la fiction, et qui sont pas que centrés sur les classiques, bien sûr.
Et Gaspard, tu as encore quelque chose à nous dire? Tu lèves la main pour intervenir.
J'ai oublié ce que je voulais dire.
Alors, si tu retrouves, tu nous dis. En tout cas, Libby Cousteau, merci Gaspard, on est en direct. Libby Cousteau a quelque chose, elle, à nous raconter. Libby, c'est le focus de fin d'émission. Vous nous parlez des enseignants d'arabe.
Absolument, c'est une enquête donc de l'Express cette semaine sur les professeurs d'arabe et les difficultés auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui, notamment les réactions de leurs élèves. Alors, je cite l'un d'entre eux. Partout, le raidissement religieux est sensible. L'obsession des élèves musulmans, c'est qu'est-ce qui est licite, halal, qu'est-ce qui est interdit, haram. Les enfants se nourrissent de réponses puisées sur le net et nous les opposent, donc note ce professeur. Un autre raconte comment, lorsqu'elle a voulu diffuser une chanson d'Oum Kalsoum, un élève l'a menacé de sortir de la classe. « La musique n'est pas interdite par le Coran », lui a répliqué l'enseignante. « Rapporte-moi le verset qui prétendrait le contraire. » Et quelques jours plus tard, la jeune fille revenait le voir avec une page entière extraite du Coran. La professeure comprend alors la source de la mauvaise interprétation de l'élève. Cela vient d'une mauvaise compréhension du terme « alghina » qui peut vouloir dire « richesse » ou « champ » selon son accentuation. Alors, ce témoignage, comme tant d'autres dans cet article de l'Express, est révélateur de ces tensions et des affirmations identitaires qui travaillent l'école de la République, et la République tout court, et de la complexité surtout, pour y faire face, de l'immense travail de pédagogie des enseignants.
Et c'est à lire dans l'Express de la semaine prochaine. L'Express, notre partenaire pour cette émission. Merci beaucoup, Libby Cousteau. Merci à tous nos invités, Héloïse Courty, Stéphane Euette, Muriel Sack. Merci, Gaspard. Tu me diras ce que tu voulais dire dans un instant. Je vous retrouve la semaine prochaine sur France Culture à 17h. Excellente soirée sur notre chaîne.